est-ce qu'il y a un privilège blanc en France ?
Non. Non, moi je ne suis pas d'accord avec cette idée.
Il y a un discours dans ce pays, moi, qui me semble dangereux, celui qui tourne autour du privilège blanc et qui me semble aller mais à rebours des valeurs qui sont celles de notre République.
C'est celui d'avoir travaillé dans les mines au 19e siècle à 12 ans. Ça, c'est un privilège blanc.
Depuis l'internationalisation de la contestation antiraciste liée à la mort de George Floyd aux États-Unis et celle d'Adama Traoré en France, un concept est revenu sur le devant de la scène médiatique et divise au sein même des rangs progressistes et antiracistes, celui de privilège blanc. Ainsi, toute personne blanche de peau aurait une sorte de capital préférentiel passif par rapport aux autres ethnies et en jouirait tout au long de sa vie. Non-discrimination à l'embauche, dans la rue, pour le logement, vis-à-vis de la police et plus généralement une absence de suspicion permanente qui pèse sur les épaules des personnes dites racisées. Mais cette notion de privilège blanc fait donc débat, particulièrement en France, où on l'oppose au pacte républicain qui est censé considérer toute personne de façon égale, indépendamment de sa couleur de peau. Bonjour Harry Gordien.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue CNRS au LARCA, le laboratoire de recherche sur les cultures anglophones à l'Université de Paris. Alors, est-ce que le privilège blanc existe ?
En tant que chercheur, j'ai tendance à revenir à la définition qui avait été donnée à la base par une universitaire états-unienne qui, en tant que féministe, avait décidé de penser la question du privilège blanc en lien avec le privilège mâle ou le privilège des hommes. Et ce qu'elle définit comme le privilège blanc, c'est précisément le fait de ne pas être confronté à la discrimination.
Cette philosophe que vous mentionnez, c'est Peggy McIntosh, mais la notion de privilège blanc apparaît un peu avant, à l'époque de la lutte pour les droits civiques. Pourquoi et comment elle se définit historiquement ?
Il y a déjà un siècle environ, le sociologue afro-américain Webb Dubois, à travers ses études sociologiques, qui étaient fondées sur des données empiriques, montrait déjà qu'aux États-Unis, la situation des personnes catégorisées comme noires et qui se définissent comme africaines-américaines était beaucoup plus défavorisée que celle des blancs et que dans ce sens-là, les personnes blanches, même quand elles étaient de classe sociale plus défavorisée, avaient un avantage qui était simplement lié au fait qu'elles étaient perçues comme blanches.
On a traduit un autre versant de ce concept par la blanchité. De quoi on parle exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire la blanchité ?
C'est une traduction de whiteness en anglais, et whiteness en anglais désigne aussi bien la couleur blanche, qui est celle d'une feuille de papier, celle de la neige, que les personnes catégorisées comme blanches, les Européens. Et en fait, la notion de whiteness traduite par blanchité en français tente à montrer qu'il y a une construction de ce que c'est être blanc. On utilise ces catégories au quotidien, blanc-noir, en pensant que c'est objectif, qu'il y a des personnes noires, des personnes blanches. Les études critiques sur la blanchité et sur la question de race, comprise comme construction sociale, bien sûr, montrent que c'est le fruit d'une histoire coloniale, esclavagiste, qui va catégoriser comme blanc certains individus, notamment dans le cadre de l'esclavage colonial, et associer le type physique européen défini comme blanc avec une position de libre et une position de privilégié, et considérer que les personnes, à contrario, qui sont catégorisées comme noires, qui sont des descendants de captifs africains, sont par essence inférieures et doivent être mises en esclavage. Et lorsqu'elles ne le sont pas esclavisées, elles sont toujours considérées comme inférieures aux personnes catégorisées comme blanches. Mais c'était le cas également dans les anciennes colonies françaises. D'autres cas de domination raciale et de blanchité, on va dire, se sont construits dans l'expérience coloniale au XIXe siècle, en Afrique, en Asie. Puis, certains estiment, en France hexagonale, sur le territoire européen même, après les migrations qui sont arrivées, après les décolonisations de personnes originaires d'Afrique, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, des Antilles, etc. etc. Dès les années 50, on le sait peu, mais il y a des écrits de Michel Deris, notamment anthropologue français, qui dénonce l'usage qui est fait par les franges conservatrices en Guadeloupe et en Martinique, que ce soit des descendants de colons ou de hauts fonctionnaires qui viennent de France hexagonale, qui dénoncent les revendications antiracistes des militants en les traitant de racistes anti-blancs.
Comment est-ce que vous définiriez-vous ou ce que les sciences sociales entendent par privilège blanc ?
Peggy McIntosh, dans son article, définit le privilège blanc de la manière suivante. Elle dit que c'est le fait pour certains groupes catégorisés comme blancs de ne pas être confrontés au racisme et d'avoir des avantages qu'ils n'ont pas gagnés par leur effort personnel, mais dont ils ont hérité et qui peut potentiellement les mettre dans une position de domination. Le terme privilège est remis en question déjà par l'auteur de l'article, Peggy McIntosh, qui a diffusé cette notion. Elle dit que peut-être qu'il ne s'agit pas de privilège, puisque ce n'est pas forcément une position enviable. Dans certains cas, c'est simplement lié au rapport minorité-majorité. Dans d'autres cas, c'est une condition de privilège qui devrait être la norme pour tout le monde. Donc il ne s'agit pas nécessairement dans ce sens-là d'un privilège. Donc elle parle vraiment d'avantages indus, non justifiés, et de positions de domination. Dans la France contemporaine, puisqu'on parle en ce moment de violence policière et de racisme dans la police, l'un des cas qui est posé aux États-Unis et qui se pose également en France, on a vu que les militants qui réclament la justice pour Adama Traoré font des parallèles entre ces deux expériences. La question des contrôles aux faciès et du rapport à la police pourrait être une des pistes qui a été sourcée, là où on a des données chiffrées, qui pourrait nous permettre de parler de privilèges dans le sens où des populations catégorisées d'hommes, de jeunes hommes catégorisés comme noirs et arabes subissent 20 fois plus, selon le défenseur des droits, de contrôle par rapport à des personnes qui sont catégorisées comme blanches. Donc là, clairement, on voit que ce que décrit Peggy McIntosh et que les sociologues commencent à systématiser dans leur analyse depuis des décennies s'applique au moins en partie en France pour ce cas précis du contrôle aux faciès et des rapports à la police. Si maintenant on s'intéresse à la question du politique, en France, il y a deux mouvements. C'est-à-dire que pendant longtemps, et cela continue aujourd'hui, on l'a vu avec les violences policières, il y a un déni de la question raciale ou de la racialisation des rapports sociaux. Comme la France a construit son image, s'est construit autour des mythes d'égalité, de liberté et de fraternité, l'idée que, malgré la force de ce mythe, il a existé, il existe encore des différences au sein de la société fondées sur la croyance en la race, heurte cet idéal républicain. Le souci, c'est que plutôt que de dire « ça c'est l'idéal, on n'y est pas encore et on y travaille », certains, dans la classe intellectuelle, au sein de la classe politique, vont quelque part se référer à ces notions républicaines, comme si de manière magique, ça allait faire disparaître le racisme. Face à ce déni, il y a une tendance à radicaliser le discours et à considérer que le racisme est partout et que la France est un pays raciste tout court. Dans ces deux positions-là, il y a des excès et la notion de privilège blanc va être considérée comme un excès de la part des militants plutôt que comme un outil imparfait qui va permettre de penser des phénomènes sociologiques qui sont inconscients, qui ne sont pas liés à la méchanceté, à la violence de personnes racistes, ou du moins pas uniquement à cela. C'est aussi lié à des rapports sociologiques, à des logiques invisibles, à des mécanismes qui expliquent des formes de ségrégation et aussi des distributions inégalitaires du pouvoir. Autre élément important, la notion de privilège blanc, elle vient d'une réflexion autour du privilège des hommes, une réflexion féministe qui a été élargie à une réflexion sur la race. Il existe d'autres privilèges qui sont complètement entremêlés avec celui qui est nommé privilège blanc. Il y a bien sûr la question de la classe sociale, la question du genre, la question de l'orientation sexuelle, voire du handicap, etc. Donc il y a plein d'autres formes de domination ou d'inégalité qui existent dans nos sociétés modernes, qui sont complètement articulées les unes aux autres et qu'il faut prendre en compte. Il n'y en a pas une seule qui fonctionne indépendamment des autres.
Merci beaucoup, Harry Gordien. Je rappelle que vous êtes anthropologue CNRS au LARCA, le laboratoire de recherche sur les cultures anglophones à l'Université de Paris. Les idées claires, c'est un programme de Nicolas Martin, coordonné par Aurélie Boiseau et réalisé par Luc-Jean Reynaud.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.